Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous savez qu'on aime plus que tout regarder de près le monde en mouvement. Et c'est vrai que depuis le début de la crise du coronavirus, les choses se sont accélérées. En tout cas, les changements s'intensifient. Et vous êtes nombreux à parler du monde d'après, celui que vous voulez co-construire. On est là pour vous aider à le faire et aussi à le faire savoir avec Elisabeth Assayag, bien sûr. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël. Bonjour à toutes et à tous.
Et le coach qui nous accompagne toute cette semaine, Monsieur Mazet. Et là, Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth.
Fondateur de Blablacar, avec des nouvelles, on va en parler dans un instant, et des nouveautés pour Blabla. Et puis vous allez voir que pendant la crise, certains n'ont pas hésité à se lancer, à lancer leur projet. C'est le cas de Céline Dao qui est avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes la fondatrice des Petits Yeux Verts, vous avez 33 ans, et alors avec votre mari Guillaume, vous avez décidé il y a un an, je crois, de vous lancer dans la fabrication de la première marque de lunettes pour enfants, marque éco-responsable fabriquée en France. Votre campagne de financement a été lancée juste avant le début du confinement, Paris Osez. On vous écoute, quelle est votre ambition et quelle valeur voulez-vous porter? Vous avez bien sûr 1 minute 30, c'est parti.
Alors effectivement Raphaël, aujourd'hui nous sommes partis d'un constat malheureusement alarmant pour en avoir fait les frais moi-même, c'est que les yeux des enfants sont soumis à rude épreuve dans la vie de tous les jours, on le sait, on a les rayons UV qui sont très mauvais pour les yeux, mais aussi la lumière bleue aujourd'hui émise par nos écrans du quotidien. Donc en fait, en partant de ce constat, Guillaume, comme vous l'avez dit, mon mari et moi-même, on a décidé de nous lancer dans l'aventure des petits yeux verts, qui est toute première marque de lunettes de soleil et de lunettes anti-lumière bleue pour les enfants de 8 à 15 ans, éco-responsables et fabriquées en France. Donc oui, chez les petits yeux verts, toutes nos lunettes sont 100% naturelles et écologiques, car toutes nos montures sont fabriquées à partir d'huile végétale biosourcée anti-allergène, donc l'huile de ricin plus précisément, qui présente plein d'avantages pour la planète. Elles sont aussi 100% origine France garantie, donc toutes nos montures et verres sont fabriquées dans le bassin d'Oyonnax, donc la fameuse région du Jura reconnue et connue pour son savoir-faire en matière de lunetterie française. On a eu également un challenge donc, qui était d'avoir un prix 100% responsable, parce qu'on voulait proposer des lunettes propres, comme on dit, en mettant en avant le savoir-faire français, mais aussi et surtout accessible à tous. Donc toutes nos lunettes sont à un prix de vente compris entre 35 et 39 euros. Et enfin, pour essayer de faire encore mieux, pour chaque paire de lunettes achetées, on reverse 1 euro à la Fondation Terre Solidaire, qui finance des projets en faveur du développement durable. Donc aujourd'hui, on sait que tous les enfants ont besoin de protection solaire ou anti-lumière bleue. Donc si vous aussi, vous souhaitez protéger les yeux de vos enfants, tout en faisant du bien à la planète et en soutenant le savoir-faire français, adoptez les petits yeux verts, toujours en pré-vente sur la plateforme Ulule.
Quel pitch, effectivement. Dites-moi, vous cochez toutes les cases. Je suppose que ça va plaire à notre coach, Frédéric Mazella.
Oui, bravo. Bon, évidemment, l'initiative est bonne. Moi, j'ai une question par rapport au... tout simplement la rentabilité ou la profitabilité de la chose sur des lunettes pour les jeunes, parce qu'en fait c'est pas ceux qui ont les problèmes de vision les plus marqués, et donc c'est pas des verres très très compliqués, et donc en fait je crois savoir que la rentabilité sur cette activité là est assez difficile malheureusement.
Alors aujourd'hui, nous, comme on est sur de la lunette solaire et anti-lumière bleue, c'est vrai que on suppose que tous les enfants aujourd'hui, malheureusement, sont exposés un jour ou l'autre au soleil ou encore devant les écrans et encore plus là pendant le confinement. Nous, on a de la chance, c'est qu'on a des canaux de distribution qui sont dématérialisés. Donc nous, notre business model aujourd'hui nous permet de proposer des prix accessibles parce qu'on fait du B2B et du B2C via le e-commerce. Donc on n'a pas du tout aujourd'hui de business modèle qui tend vers un business model retailer. Donc grâce à ça, on peut proposer effectivement des prix qui sont accessibles.
Et vos verres, vous les avez par où? Parce qu'il y a trois grands leaders.
Les verres sont également Origine France garantie. Donc fait par l'entreprise Dalloz, donc pareil à Oyonnax dans le Jura.
Donc tout est coché. Hein. On a effectivement les montures qui sont biosourcées, les verres qui sont français. Biosourcées, c'est-à-dire, expliquez-nous, dites-nous-en un petit peu plus sur les montures.
Alors, biosourcé, c'est-à-dire qu'en fait, tout le matériau est végétal. C'est à base d'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin, il faut savoir que donc c'est une plante qui n'inclut pas d'OGM, elle ne demande pas beaucoup d'eau, elle engendre pas de déforestation. Donc, en fait, elle pousse, on la récolte, on en fait ensuite une huile qui est cristallisée. Et ensuite, via cette huile cristallisée, on fabrique des lunettes. Donc, le produit fini, en fait, ressemble à du plastique, sauf que ça n'en est pas. Et c'est un produit qui est 100% organique.
La campagne Ulule est toujours en cours.
Oui.
Vous avez besoin de quoi pour assurer votre développement aujourd'hui, Céline ?
Alors aujourd'hui, en fait, on a lancé, comme vous l'avez si bien dit, la campagne Ulule, donc le lancement juste avant le confinement. Aujourd'hui, on a eu la chance que Ulule veuille bien reporter le délai de campagne. Nous, ce qu'on a fait, c'est que normalement, on avait un budget de 5000 euros pour le lancement pour la campagne de crowdfunding qui était censé nous aider justement à lancer la première production. Aujourd'hui, on a décidé de piocher dans notre trésorerie pour anticiper la production pour pouvoir livrer les lunettes en temps et en heure, hein, parce qu'on sait que les beaux jours arrivent. Aujourd'hui, on est toujours en phase de lancement. On attend toujours que la campagne se termine. On espère pouvoir lever au moins nos 5000 euros pour pouvoir ensuite développer et étoffer davantage notre gamme.
Oui, parce que vous en êtes pour l'instant à 60% de votre objectif.
Elisabeth.
Oui, alors moi, je suis d'accord, elle coche absolument toutes les cases. D'abord, j'adore le nom de votre marque. Alors ça, je trouve que vous avez hyper bien choisi parce qu'on le retient. On a envie de savoir ce que c'est, on a envie de savoir à quoi elle ressemble. J'avais une petite une petite hésitation sur l'huile de ricin, mais j'ai regardé concernant les allergies. Je pensais aux enfants parce que parfois les huiles ça peut provoquer quelques réactions cutanées, mais bon, ça concerne 1% de la population et en plus de ça vous la transformez, donc tout va bien.
C'est ça, exactement. Voilà. Donc à la base, c'est quand même une huile qui reste anti-allergène, donc beaucoup mieux que le plastique qu'on peut trouver, en fait, les matières qu'on trouve sur les plupart des lunettes, quoi.
Voilà, donc vous cochez toutes les cases, bravo.
Céline, merci. En plus, vous avez regardé.
Oui, je suis sur Ulule et les lunettes, une case de plus à cocher parce qu'elles sont très jolies. Vraiment.
Merci beaucoup.
Je vous en commande.
Voilà, vous voyez, on va faire monter la cagnotte et probablement que les auditeurs qui sont à l'écoute vont également la faire grimper. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On reste en contact et vous nous donnerez évidemment de vos nouvelles et des nouvelles des petits yeux verts. Il est 13h15.
Avec plaisir.
Restez avec nous, c'est le nouvel objet qui accompagne notre quotidien, le masque. Mais vous allez voir que certains sont en train de le réinventer en France. Et biodégradable, s'il vous plaît, c'est Mascotte et c'est la solution avec Elisabeth. À tout de suite.
De retrouver la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Et oui, et quand la filière papier est devenue une aide pour lutter contre la crise, Elisabeth, c'est la solution avec Mascotte qui propose des masques en papier pour respecter les gestes barrières.
Et oui, et tout est réuni dans ce masque qui est français, biodégradable à usage unique. Là aussi, on a affaire à une entreprise qui a su s'adapter à la crise. À l'origine, cette entreprise fabrique des papiers à sentir les parfums. Vous savez, on a tous vu dans les parfumeries, on vous donne une petite languette en papier. Parfois, ce sont des origamis ou des papiers en forme de petites fleurs qui permettent de découvrir un parfum pour pouvoir faire son choix. Là, cette entreprise experte en papier, au service de grandes marques de luxe, s'est dit « je vais m'adapter à cette crise, je vais essayer de pouvoir apporter ma contribution » et elle s'est adaptée. Ces papiers à sentir le parfum se sont transformés en masques de protection de type 1 dans un papier solide, quasiment indéchirable. J'ai la chance d'en avoir un entre mes mains. Il est quasiment sur mesure. À l'intérieur, un QR code pour regarder la vidéo de montage pour la première fois et l'ajuster à sa taille. Il est vendu par lot minimum de 50 pièces. Il est davantage destiné aux entreprises. On va en savoir davantage avec vous, Christine Satin. Bonjour.
Bonjour, bonjour Elisabeth, bonjour Raphaël.
Bonjour,
merci
Christine.
De m'accueillir dans votre émission.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la cofondatrice de Mascotte. Alors votre entreprise a été créée en 2012, mais Mascotte, ça existe depuis 3 semaines. Comment ça s'est passé ?
Alors écoutez, au moment du confinement, vous l'avez bien dit, je suis une passionnée de papier, passionnée de créativité et de technique du papier. Et j'ai vu l'émergence au service de l'entraide d'une créativité, des idées ingénieuses qui naissaient dans tous les domaines. Et j'ai eu envie de prendre ma part pour la lutte contre le Covid en essayant au départ de rechercher si les solutions du papier pouvaient être une vraie solution et technique et écologique. Parce que, en effet, mon cœur de citoyenne commençait vraiment à comprendre que tous ces masques qui allaient sortir de partout et qui risquait malheureusement de temps en temps de traîner un peu partout. Et c'est un vrai danger voilà, pour la planète.
Et donc, et vos masques ne représentent aucun danger parce qu'ils sont en papier Il répond voilà. À quoi votre masque? Et comment est-il?
Alors, le masque en papier, c'est un masque biodégradable. Donc, quand on le compare, par exemple, aux masques chirurgicaux, qui sont des masques qui disparaissent en 450 ans dans la nature, il est bien évident que le masque n'est pas fait pour être mis ou oublié quelque part dans la nature ou sur les plages, comme on le voit dans les articles, dans les vidéos qui naissent de toutes parts. Mais en effet, c'est un papier, donc il est biodégradable. Si par hasard vous l'oubliez quelque part, en quelques jours, voire quelques semaines au maximum selon la météo, le papier est biodégradable.
Mais il tient bien, une fois qu'on le met sur le visage, ça paraît étrange un masque en papier, parce qu'on se dit, moi je peux prendre un papier rigide et essayer d'en faire un. Quel type de si particulier?
Alors, il a une ergonomie assez particulière qui fait que, d'une part, il est très confortable. J'ai entendu dans votre journal, il y a environ une demi-heure, des personnes qui évoquaient
les irritations.
La pression, voilà, les irritations sur les oreilles, la pression qu'il exerçait éventuellement sur la bouche et sur le nez, qui gênait la respiration. Là, vous avez une ergonomie qui laisse une poche d'air un peu à l'avant, on va dire, du nez et de la bouche. Ça ne touche pas du tout les oreilles, puisqu'en fait, on profite d'un petit plat qu'il y a en haut, derrière la tête, qui fait que le masque est presque suspendu un petit peu sur le haut de la tête, ce qui fait qu'il repose de manière très légère, en fait, sur le nez, et que vous le portez plus qu'il ne vous tient avec des élastiques, en fait. Et c'est ça qui fait la différence de confort. Il est léger, vous pourrez même bouger avec. Il y a certaines personnes de mon entourage qui ont fait des petits tours en vélo pour voir comment ils tenaient. Vous voyez, il est pas fait non plus pour faire de la gym acrobatique, mais enfin, il tient. Dans les ateliers, on peut l'utiliser. Il y a aucun souci au niveau de sa tenue.
Frédéric Mazella, notre coach.
Alors, j'ai qu'une question. Comment on fait pour les acheter?
Alors, vous les achetez sur mascotteparis.fr. qui est donc un site internet tout jeune. Donc, quand vous recherchez, il vaut mieux mettre Mascotte Paris dans la barre de recherche avec U.
Mascotte, voilà, il faut le préciser.
Comme un masque.
Voilà.
Hein.
C'est comme un masque, en fait. C'est un clin d'œil au masque. Donc, vous cherchez le Mascotte Paris en le mettant dans la barre de recherche tout en haut. Sachant que Mascotte, on a choisi ce nom-là pour être un petit peu du masque et surtout un petit peu d'une emblème du soutien des entreprises françaises, du fait qu'on a les moyens de faire écologique aujourd'hui quand on est une entreprise. Ce masque, il est anti-gouttelette dans les deux sens, ce qui est aussi, on va dire, un plus par rapport à de nombreux masques où on vous dit, vous portez un masque, mais il faut savoir que vous protégez surtout les autres. Donc, si vous avez des personnes qui ne souhaitent pas en face de vous mettre un masque, vous vous retrouvez à être extrêmement, on va dire, voilà, démunis parce que vous n'avez pas de protection en réalité.
Non, mais voilà, votre masque protège même des gouttelettes. Alors, vous parlez des entreprises françaises. Vous avez fait le choix de travailler avec vos fournisseurs historiques. Hein, donc, c'est même de la fabrication quasiment locale.
Locale, tout à fait. C'est-à-dire que lors du confinement, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans ce moment-là en télétravail et particulièrement, on va dire, la filière graphique où c'était très compliqué d'arrêter les machines, on avait envie de continuer et en même temps c'était complexe de continuer nos activités, particulièrement dans le parfum où tous les séminaires sont à peu près sur cette période. Ça veut dire qu'une entreprise comme la mienne, tout à coup, elle était presque arrêtée complètement parce que tous ces séminaires ont été stoppés.
Donc vous êtes mobilisée et vous avez mobilisé vos fournisseurs aussi?
Voilà, j'ai mobilisé mes fournisseurs autour du Mascotte Paris. J'ai mobilisé aussi, on va le dire, ma team de cœur, qui sont des gens qui ont des compétences autour de moi et qui étaient plus locaux encore, des amis, mes enfants, on va dire, qui avaient des compétences de graphisme, de chargé de communication. Et tout le monde s'est mis dans cette énergie bienveillante au service des filières et au service de la lutte contre le Covid de manière locale, écologique. Et puis accessible au niveau prix, parce qu'il faut dire aussi qu'on est complètement compétitif, voire même moins cher sur des gros volumes d'achat que les masques que l'on voit aujourd'hui.
Ça s'appelle Mascotte, donc masque comme un masque, apostrophe O-T-E-S. Merci d'avoir été avec nous. Et je précise d'ailleurs que le ministère de l'Environnement va lancer une campagne justement pour nous sensibiliser à ne pas jeter les masques par terre. C'est important, mais c'est toujours mieux en le disant.
Il est 13h25.
Europe 1.
On reste ensemble et on va parler vélo aujourd'hui. Il a la cote, c'est le dossier du jour. A tout de suite.
La France Bouge continue avec le dossier du jour consacré cet après-midi à un mode de déplacement qui a le vent en poupe, le vélo, Raphaël.
Ouais, oui, c'est vrai que le vélo, Céline, avait déjà sérieusement gagné du terrain en France. Vous étiez l'an dernier plus de 38% à l'avoir adopté pour faire vos trajets domicile-travail en milieu urbain. Mais avec les grèves et l'épidémie de coronavirus, il est devenu le nouvel allié de ceux qui veulent respecter la distanciation sociale, ne pas prendre les transports en commun. Un véritable retour en force et ça se vérifie, notamment chez EcoVélo. Bonjour Sébastien Bourbousson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cela fait un an qu'à Nantes, vous proposez des vélos électriques connectés en libre service. Mais aujourd'hui, vous allez plus loin puisque vous avez aussi sur vos vélos des panneaux solaires et une batterie de rechange. Finalement, on a le kit complet.
Oui, pour les villes, il faut fournir un kit complet. Il faut gagner les usagers et le vélo, c'est un combat. Donc on bat contre la voiture, donc effectivement, dès qu'on a un objet connecté, on peut offrir beaucoup de fonctionnalités et donc essayer de gagner en fait des nouveaux utilisateurs.
Le modèle séduit tellement que vous avez au début du confinement réussi à boucler une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros. C'est vrai qu'en 7 ans, vous avez connu un véritable développement assez impressionnant.
Oui, alors pour deux raisons. Il y a une croissance naturelle du marché du vélo en lui-même depuis 5 ans et il y a une croissance forcée. Le gouvernement investit beaucoup pour le développement du vélo et il se trouve que le Covid par-dessus a accéléré cette démarche-là. Donc en tant que vision d'entreprise, on se retrouve effectivement nous plutôt dans des bonnes dispositions pour attaquer l'avenir.
Ouais, Elisabeth, on peut le dire je crois, le déconfinement c'est l'heure de gloire du vélo.
Ah ben oui, la pratique du vélo qui connaissait avant le confinement, c'était deux pics de les jours de semaine, matin et soir. Désormais, ça s'étale sur la journée. Ce sont des données de Vélo et Territoire, une association qui regroupe les réseaux des départements et des régions cyclables. D'ailleurs, depuis le début du déconfinement, la pratique du vélo a bondi de 44% en ville, mais aussi dans le périurbain et à la campagne. Les grands gagnants sont dans les milieux périurbains et dans les milieux ruraux, avec une des progressions de 138 et 197%, une progression de 27% en ville, mais en ville, le nombre de cyclistes avant le confinement était déjà plus important. Et d'ailleurs, on va le voir, des municipalités ont créé ou même renforcé leurs infrastructures dédiées au vélo avec des pistes cyclables pour éviter que les usagers des transports en commun se reportent directement et massivement sur la voiture par crainte du virus.
Ouais, justement, Sébastien Bourbousson, vous, avec votre solution EcoVélo, puisqu'on peut aller prendre un vélo un peu n'importe où, vous dites on vise particulièrement les villes moyennes, ce sont elles qui vous intéressent en particulier, pour quelles raisons ?
Alors, au départ, on était effectivement des pionniers. Les vélos libre-service étaient pour les grandes villes et les villes moyennes ne voyaient pas forcément l'intérêt puisque la voiture restait reine et les problématiques de voirie étaient moindres. Aujourd'hui, même les petites villes sont intéressées par des vélos libre-service puisque les transports en commun, comme vous l'avez dit, il y a une défiance. On doit faire du transport public, donc on doit proposer des solutions à ses citoyens. Donc effectivement, aujourd'hui, les petites et moyennes villes, en milieu urbain ou périurbain, vont devoir avancer vers le vélo. Ça va rester des étapes progressives. La première, c'est les infrastructures. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des pistes cyclables temporaires. On espère tous qu'elles vont devenir pour la plupart pérennes. Et ensuite, il faut se battre contre la peur du vol pour le cycliste. C'est une des premières barrières à l'entrée. Le vélo libre-service résout ce problème-là, puisque du coup, quand vous avez fini votre déplacement, vous n'êtes plus en responsabilité sur le vélo. Et la troisième barrière à l'entrée, c'est le climat. On ne peut pas y faire grand-chose, sauf à conseiller des bons vêtements.
Effectivement. Alors justement, puisque vous parlez des pistes cyclables, et après je donnerai la parole à Frédéric Mazella, vous nous disiez, Elisabeth, qu'il y a de plus en plus de villes qui se mettent à en faire au niveau local.
Ça se bouge énormément. Par exemple, la métropole de Tours, en 3 semaines, ils ont mis en place un réseau de transitoires de plus de 60 km, 2 fois 30 km dans chaque sens, qui est réparti sur 7 communes du cœur de la métropole. C'est un réseau qui s'inscrit peut-être dans la durée parce qu'il s'installe sur une partie du schéma vélo qui avait été mis en place d'ici 2030. Hein. Il y a beaucoup de villes qui accélèrent, entre guillemets, leur plan vélo, avec 2 sortes de pistes cyclables, une pour l'espace public et d'autres plus douces avec une signalétique au sol. Vous avez aussi Dijon avec un investissement de 1 million d'euros, Dijon Métropole, là aussi pour amplifier le développement du vélo. Une mise à disposition de 400 vélos en location longue durée, des abonnements gratuits jusqu'au 2 juin, des recrutements en juillet de chargés de mission consacrés au vélo et à la mobilité active, ou encore dans le Pays Basque, création de 9 km de pistes cyclables provisoires à Bayonne, Anglet et Biarritz.
La mobilité active, voilà qui vous parle, hein, Frédéric Mazella.
Oui, alors bon, bravo hein, pour cette initiative. Je voulais savoir, vous êtes au niveau de votre expertise, vous vous définissez comment? Parce que vous assemblez beaucoup de choses qui proviennent de différents constructeurs, de différents partenaires. Qu'est-ce qui fait que vous êtes foncièrement différent de tout le reste? Et aussi, j'ai pas compris exactement si votre service était sur des bornes ou s'il était totalement libre, c'est-à-dire que les vélos
Il y a les deux, je crois. Je crois qu'il y a les deux.
Oui. En fait, on est concepteur, c'est-à-dire que l'assemblage final, on est propriétaire de tout, donc on fait de l'électronique, on fait de la technologie, on a le design des vélos qui est très particulier, on fait des bornes, on fait des batteries, puisqu'on a des vélos qui sont électriques pour la plupart. Donc aujourd'hui, notre particularité, elle est là, c'est qu'en étant concepteur de la solution, on peut faire du sur-mesure. Et qui dit sur-mesure, dit répondre aux besoins d'une collectivité.
Aujourd'hui, d'accord, donc vos vélos sont différents d'une ville à l'autre, ils ne se ressemblent pas même physiquement?
Alors, ils vont avoir des différentes couleurs et on a plusieurs vélos. On va même avoir un VTT libre-service par exemple. À un moment donné, pour les zones périurbaines, pour inciter les gens à la pratique, de mixer le vélo urbain avec le vélo balade vis-à-vis de ça. Et notre système fonctionne avec ou sans bornes. Donc aujourd'hui, c'est des bornes extra-légères. On n'est pas sur les anciens systèmes Vélib comme à Paris avec des infrastructures lourdes. C'est des bornes qui vont se déplacer en 2 minutes. Il n'y a pas de génie civil. Et le système va fonctionner sans bornes.
Ouais, c'est extrêmement agile.
Principalement pour des stations éphémères. Il y a des enjeux événementiels, il y a des enjeux de gestion de flux qui nécessitent de pouvoir accéder à un service sans borne. Autant qu'il faut maîtriser la voirie, donc il faut maîtriser les points. Et les bornes aujourd'hui, pour les collectivités, restent les solutions les plus maîtrisables, donc les plus rationnelles.
Vous restez avec nous, on va rejoindre un autre mordu de roue. C'est Martin Bouche qui est avec nous. Bonjour Martin.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes le cofondateur de la marque de vélo Made in France Caval. C'est assez récent, hein, 2018, et vous travaillez avec quelqu'un que les amoureux de cyclisme connaissent déjà, Alex Singer à Levallois, qui est une maison reconnue depuis 1938 dans la fabrication de cycles sur mesure. Dites-moi, faire du Made in France aujourd'hui, du 100% Made in France, c'est compliqué? Vous faites du 80% Made in France.
Oui, tout à fait. Alors, Donc, les cycles Caval, on est une jeune marque française de vélos électriques urbains. Et en effet, notre projet a été de créer des vélos électriques très légers, fiables et avec une identité forte.
Ouais, 15 kilos, hein, c'est ça, 15
ouais,
kilos.
À peine 15 kilos, ce qui fait que c'est un des vélos électriques les plus légers du marché. Et comme vous l'avez très bien dit, nous avons, en partenariat avec les cycles Alex Singer, créé des vélos qui ont une conception et une fabrication de très grande qualité et surtout une fabrication française. C'était vraiment au cœur de notre démarche et de nos convictions.
Oui, alors quand on dit français, le cadre est fabriqué en France, les garde-boue en Saône-et-Loire, les roues en Bretagne, je crois.
Oui, alors en fait, c'est vrai que pour nous, Caval, assembler n'est pas fabriqué. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas uniquement à l'assemblage de composants venant d'Asie, mais nos cadres sont fabriqués en région centre, les roues en Bretagne, les garde-boue en Saône-et-Loire, le pédalier et le jeu de direction à Saint-Étienne, la batterie à Villeurbanne, jusqu'au blason qui est fabriqué en Anjou, et évidemment l'assemblage final du vélo qui est fabriqué dans les ateliers à Levallois. C'est en effet plus de 80% de la valeur de nos vélos qui est fabriqué en France.
Qu'est-ce qui ne peut pas être fabriqué en France encore à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui nous manque finalement pour qu'on arrive à ce fameux 100%?
Alors, c'est essentiellement le moteur électrique du vélo.
Oui. Donc ça va peut-être venir, hein, parce que vous avez vu que sur la batterie électrique, on est en train de bouger, en tout cas pour l'automobile, mais ce sera aussi vrai, évidemment, pour les autres modes de déplacement. Vous avez, vous, constaté un véritable regain pour le deux-roues ?
Oui, bien sûr. Avec la période actuelle, en effet, on a constaté une réelle hausse de la demande. Je dois dire à peu près depuis début mai, en fait, à l'approche du déconfinement. En fait, les gens ont profité de la période de confinement pour effectuer beaucoup de recherches, notamment sur Internet, sur les vélos électriques, sur ce qui existe sur le marché. Et si vous voulez, la période, et vous l'aviez dit en introduction de l'émission, la période que nous vivons actuellement est vraiment similaire à celle du début de l'année, au moment des grèves. Ouais. Et nous, en tant que passionnés de vélo, si vous voulez, c'est un plaisir en fait de pouvoir partager cette passion avec les gens qui découvrent ou redécouvrent les avantages indéniables du vélo pour le quotidien. Et donc pour nous, on espère qu'évidemment que ce mouvement positif va continuer à se pérenniser dans le temps.
Que ça va évidemment perdurer. Frédéric Mazella.
Bravo, encore une fois. Alors, ce que je comprends, c'est quand même des vélos assez premium. Hein, c'est-à-dire que non seulement, évidemment, tout est fabriqué en France, mais aussi au niveau positionnement, vous êtes assez premium, notamment par rapport au prix. Puisque moi, j'ai vu 3 500 € pour un vélo. Et comment, justement, on peut réussir à avoir un vélo... alors, je ne sais pas si c'est le prix de départ et si ça va s'améliorer, mais qui reste à ce prix-là quand, en fait, on est sur un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Et bien qu'on aime tous acheter français, il y a un moment, on aime tous acheter à un meilleur prix aussi, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, le prix exact, c'est 3 450, donc en dessous de 3 500 €. Mais c'est le prix d'un vélo qui est bien conçu, qui est fabriqué avec des composants de grande qualité et durable dans le temps. Pour nous, c'était très important que les composants, au bout de 1 ou 2 ans, ne s'abîment pas et ne se détériorent pas. Et aussi, d'une belle fabrication française, comme on l'a indiqué avant. Et... si vous voulez, et puis il y a un deuxième point aussi, c'est que c'est un vélo utilitaire qui est fait vraiment pour ses trajets du quotidien, pour aller au bureau, à ses rendez-vous. Et c'est une sorte d'investissement, c'est-à-dire que ce que l'on voit chez nos clients, c'est que c'est des gens qui ont vraiment considéré le vélo comme une alternative pour pérenne pour leur déplacement au quotidien.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on aura l'occasion évidemment de prendre de vos nouvelles et des nouvelles de ce vélo qui se développe de plus en plus en France. Il est 13h40. Europe 1. Pour pouvoir circuler à vélo, il faut aussi avoir les équipements qui vont avec pour rouler et aussi se dépanner. A tout de suite. Dans la France bouge avec un dossier du jour consacré à la place du vélo dans la France déconfinée, Raphaël. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le vélo hein, pour vos trajets domicile-travail notamment, et les outils pour vous accompagner dans cette démarche se développent aussi. Bonjour Alexandre Rico.
Oui, bonjour Raphaël.
Vous êtes le cofondateur de You Win Bike. C'est une appli créée par 5 Toulousains, vous êtes Toulousain, et qui nous permet en fait de donner à notre employeur le justificatif de notre trajet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc ça s'inscrit dans le cadre du nouveau forfait mobilité durable qui permet à l'employeur d'indemniser à hauteur de 400 € par an maximum un salarié qui se déplace à vélo. Et nous, on fournit une solution 100% digitale, innovante, qui va permettre de fournir un justificatif de pédalage entre le domicile et le travail.
Comment vous avez eu cette idée ?
Alors c'est une réflexion qu'on s'est faite depuis la loi précédente qui s'appelait l'IKV. Donc qui est paru en 2016. Et comme il n'existait pas de dispositif simple pour justifier le pédalage, le législateur a mis en place la déclaration sur l'honneur, mais qui pose beaucoup de problèmes. Donc c'est l'an dernier, une grande société toulousaine nous a demandé de plancher sur une solution pour fournir cette preuve du pédalage, en fait. Oui, donc, on s'est orienté vers une...
Oui, c'est un peu comme sur nos téléphones, finalement, quand on compte les pas. Là, ça compte les coups de pédale.
C'est exactement ça. C'est un peu le même système. On exploite des données du téléphone qu'on traite avec de l'intelligence artificielle. Et pour dire que le trajet se fait bien à vélo, à pied, et puis pour évacuer les trajets, par exemple, qui se feraient en voiture.
Et alors, sur cette appli, vous pouvez comptabiliser d'autres choses. Le CO2, je crois, économisé, par exemple.
Tout à fait. Nous avons On applique un barème en fait au kilomètre vraiment réalisé à vélo, ce qui permet à un salarié et puis après au niveau d'une entreprise de faire du cumul d'économies de carbone. Tout à fait.
Vous dites, Alexandre, que vous voulez être le blablacar de la mobilité active. Ça tombe bien parce que Frédéric Mazella est avec nous.
Oui, ben c'est notre ambition. On verra si on y arrive, mais on est plutôt bien parti. On est sur un bon concept.
Ouais, Frédéric Mazella.
Ah, très bien. C'est vrai qu'un petit mot déjà sur le forfait mobilité durable, qui est quand même une superbe nouvelle mesure qui vient d'être passée là le 9 mai dernier, qui effectivement permet aux entreprises de mettre en avant de favoriser les nouvelles mobilités responsables, type vélo ou covoiturage, justement pour tous les salariés. Donc ça c'est très bien et ça que votre produit rentre dans cette logique-là, c'est parfait, puisque ça va être une véritable aide au développement de ces nouvelles mobilités et ça arrive exactement au bon moment avec le déconfinement. Donc, écoutez, bravo de lancer cette solution de traçabilité quelque part des kilomètres, même si aujourd'hui c'est un forfait, donc c'est 400 euros, il n'y a pas forcément besoin d'aller compter tous les kilomètres faits, que ce soit en vélo ou en covoiturage. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens et ça permet de compter les CO2, économiser, donc du coup d'aider les entreprises dans leur communication.
Et vous aussi, vous avez une nouvelle à nous annoncer, hein, puisque vient de naître Blabla Ride.
Ah oui, tout à fait. Donc nous, sur le domicile travail, on avait déjà lancé Blabla Lines, notre solution de covoiturage domicile travail. Et là, maintenant, pour les plus petites distances, on a annoncé aujourd'hui le lancement de Blabla Ride, qui est un grand partenariat qu'on fait avec une très belle société suédoise qui s'appelle Voy, et, sur des trottinettes électriques en partage. Et donc du coup, ça va permettre à tout le monde de pouvoir utiliser ces trottinettes électriques avec une
tout le monde parce
volonté.
Que c'est déployé sur la totalité de la France.
Oui, ça va être ce partenariat avec Voy, il porte sur toute la France, donc dans toutes les villes dans lesquelles il y a Voy qui est déjà déployé, qui est donc cette belle marque de trottinettes électriques. Eh bien, on s'associe pour pouvoir proposer le service plus facilement à toute la communauté BlaBlaCar, puisque on pourra utiliser le même profil aussi entre BlaBlaCar et BlaBlaRide. Et donc, on s'est associé à cet acteur-là parce que justement, il y a une vision éco-responsable très forte chez eux, puisque non seulement ils veulent avoir, ils ont un objectif de 100% de neutralité carbone dans les opérations dans les villes d'ici fin 2020, mais aussi une durée de vie, ce qui était souvent reproché aux trottinettes, qui là va jusqu'à 24 mois avec des batteries interchangeables. Donc,
c'est vrai que c'est important. On le voit depuis le début de l'émission. Elisabeth, il y a aussi des collectivités, tiens, qui proposent de tester gratuitement des vélos.
Oui, ça se passe à Meaux. Des vélos sont mis à disposition des habitants. L'objectif, c'est d'éviter les transports. Donc, c'est une initiative qui a été portée par une association, l'association Germinal, une association de réinsertion, avec la mairie de Meaux. 50 vélos pour les habitants qui désirent se rendre au travail et qui veulent éviter les transports. C'est une initiative qui peut aussi permettre de se familiariser avec le vélo et pourquoi pas en acheter un plus tard.
Ça peut donner envie, effectivement. Alors, quand on a un vélo, on aime bien aussi pouvoir le réparer. Je vous propose de rejoindre Corinne Verdier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Altinova. Alors, vous proposez des arceaux, des abris pour vélos, des consignes. Mais ce qui nous a tout particulièrement intéressés, c'est vos stations-service. Parce que vous les développez spécialement pour le vélo. C'est-à-dire que quand on crève, par exemple, et je sais qu'Angèle Châtelier, qui est de l'autre côté de la vitre, se sent visée, on ne sait pas quoi faire. Ben, vous y aviez pensé pour nous.
Exactement. Alors, effectivement, on a développé des stations en fait qui permettent d'apporter un service aux cyclistes sur leurs itinéraires, avec des stations de gonflage, de réparation, voire même de lavage de vélos en libre service. Le but, c'est d'apporter du confort, de la sécurité dans la pratique du vélo et d'être présent aux côtés du cycliste qui souvent ne se déplace pas avec son kit d'outillage et beaucoup de matériel sur lui.
Donc il y a tout à l'intérieur. Je vais trouver des tournevis, je vais tout trouver.
C'est ça exactement. Alors on a développé un support qui permet de suspendre le vélo pour pouvoir accéder facilement à ses roues et aux différentes parties du vélo sur lesquelles on peut avoir à intervenir. et on met à disposition des outils qui vont permettre d'effectuer des réglages et des réparations de base. Le but n'est absolument pas de venir en concurrence avec un réparateur, mais plutôt d'amener la capacité d'intervenir très rapidement à un cycliste, et vraiment on est sur du petit dépannage en fait.
Vous êtes en train de vous installer un petit peu partout, à Paris, à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux, à Chambéry, mais vous êtes déjà présent dans 25 pays ?
Oui, absolument. Altinova, donc c'est une société en fait qu'on a développée autour de cette thématique du vélo, qui conçoit et qui fabrique en France 100% de ses produits. Ouais. Et néanmoins sur les stations de service pour cyclistes, c'est une création de notre part. Hein, c'est un concept qui n'existait nulle part au monde, ce qui nous a permis en fait un développement national, mais aussi un développement dans 25 pays, dont notamment la plupart, enfin quasiment tous les pays d'Europe.
Oui, et alors on a parlé des villes, mais ce qui est important de dire, c'est que vous êtes en train de vous installer aussi à proximité d'itinéraires verts, hein, en Ardèche, en Vendée, en Nouvelle-Aquitaine, c'est important aussi.
Tout à fait. Aujourd'hui, le vélo, c'est la mobilité, c'est le loisir. Enfin, on le retrouve en fait dans différents pans de la vie du quotidien. Donc, on accompagne aussi bien la mobilité urbaine, où le vélo est vraiment très pertinent, mais aussi les itinéraires, en fait, l'itinérance, le vélo loisir, plaisir. Donc, ça peut être aussi bien sur des volets de type cyclotourisme, la balade, la promenade en famille, etc., que sur des aspects plus sportifs, comme la pratique du VTT, où là, par exemple, les stations de lavage sont tout à fait pertinentes à la fin d'une bonne sortie boueuse.
Oui, effectivement, on a tout ce qu'il nous faut, finalement. On a même la possibilité de réparer nos vélos quand on crève, donc on n'a plus de mauvaises raisons pour ne pas faire les kilomètres à vélo. Merci beaucoup Corinne Verdier d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé à ce dossier sur le vélo. Il est 13h51.
Europe 1.
On va rester ensemble, c'est l'heure du coup de main de La France Bouge. A tout de suite.
La France bouge avec, comme chaque jour, le coup de main de La France bouge, Raphaël.
Oui, c'est tous les jours. Si vous avez une question, votre dossier atterrit dans les mains expertes de Nathalie Carré, chargée de mission entrepreneuriat CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, c'est le dossier de Denis Bardon qu'on a regardé. Bonjour Denis.
Bonjour Raphaël, bonjour Nathalie.
Vous êtes vigneron, fondateur du domaine Bardon à Valençay dans l'Indre. Votre activité a été stoppée net évidemment avec le confinement. Là ça redémarre mais pas à 100%. Quelle est votre question? Comment pouvons-nous vous aider?
Donc le domaine Bardon que je représente produit et commercialise toute sa production en appellation Valençay auprès d'une clientèle professionnelle, principalement de cavistes, épiceries fines et restauration. Au 16 mars, tout s'est arrêté pendant une dizaine de jours. Avant que nos clients cavistes se réadaptent à la situation et reprennent une activité, ce qui nous a engendré une baisse de 40% de chiffre d'affaires, qui se rattrape légèrement depuis quelques semaines. Mais nous aurons toujours un manque de 25% tant que la restauration n'aura pas reprise. À ce sujet, faudra vraiment soutenir nos amis restaurateurs à leur reprise.
On le fait, voilà. Ne vous en faites pas. Mais quelle est la problématique que vous vouliez aborder auprès de Nathalie ?
Eh bien, la problématique est qu'en fait, à partir du 16 mars, correspond aussi la date de reprise de tous nos saisonniers. J'ai donc stoppé toutes les embauches pendant un mois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un réel retard qui risque de s'amplifier début juin avec la reprise de la restauration. En fait, d'où ma question, est-ce que le secteur viticole peut bénéficier d'un allongement de temps de travail hebdomadaire de 48 heures à 60 heures, sachant que nous avons toutes les compétences sur le domaine.
Nathalie Carrel.
Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Je suis désolée puisque on attend toujours le décret qui va déterminer les activités nécessaires à la sécurité, à la nation, etc. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, vous avez des aides qui sont prévues, mais sur ce point-là, mais c'est le cas pour toutes les entreprises, hein, sur les durées maximum, on attend des décrets toujours. Par rapport à votre problématique d'embauche, il y a une plateforme qui a été mise en place, mobilisationemploi.gouv.fr. www.cavale.gouv.fr, justement spécifique à la crise. Donc peut-être que ça peut vous aider pour retrouver la main d'œuvre quand vous en aurez besoin. Il y a déjà pas mal d'annonces en ligne. En revanche, effectivement, donc il y a du prêt aussi qui a été facilité, du prêt de main d'œuvre qui a été facilité. Mais l'extension de la durée de travail, on n'a pas encore l'info. Ça devrait arriver là, je pense, la semaine prochaine, puisque c'est là que le plan tourisme, dont dépend de la restauration, va être officialisé par les ordonnances et les décrets.
Donc, pour l'instant, on est en stand-by, hein, si j'ose dire, Nathalie. Il y a des petites choses, mais il n'y a pas de solution à proprement parler.
Non, en revanche, il nous reste une petite minute. La question que je me posais par rapport à votre activité, je suis fidèle cliente, est-ce qu'entre cette crise-là, les nouvelles consommations, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui consomment différemment, avec un besoin de prêt-à-boire. Enfin, on achète de moins en moins de vins de garde, en tout cas, notamment sur les nouvelles générations. On a les sujets des aléas climatiques. Enfin, bref, vous êtes quand même sur un métier difficile. Est-ce que c'est pas le moment de, on a parlé beaucoup de pivot la semaine dernière, de faire évoluer votre offre, de repenser le vin, la façon de boire le vin. En tout cas, je sais qu'il y a quelques marques qui sont essayées, notamment des marques étrangères. Mais effectivement, pour garder votre place et distribuer différemment, est-ce que c'est pas le moment de repenser quelque chose autour de l'expérience du vin? Voilà, qui est une jolie expérience, mais un peu tradie pour les nouvelles générations peut-être.
Denis. On a déjà un peu repensé nos vins, hein, puisque nous on est justement sur des vins très jeunes en plus pour une clientèle jeune, puisqu'il y a vraiment une nouvelle clientèle de jeunes consommateurs, quoi. Donc on a déjà repensé un peu notre concept de vin, quoi.
Il faut peut-être aller un peu plus loin. On va essayer de vous aider. On reste évidemment en contact, Denis, et vous nous donnerez de vos nouvelles. Merci Nathalie Carré. On se retrouve demain avant 14h. Merci à Frédéric Mazella et Elisabeth Assayag. On se retrouve pour le 12-14. La France bouge, bien sûr.
À demain, Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.